Giulia Turati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du secteur d'art, le lieu d'art, la halle Jean Gattegno, Pont-en-Royan. Une nouvelle exposition qui arrive avec des allures printanières, on peut dire, à l'instar des feuilles qui bourgeonnent sur les arbres. C'est d'autres feuilles qui peuvent aussi se déployer dans le centre d'art. Et aujourd'hui aussi, une proposition d'exposition collective. Alors quand on annonce feuilles, ce n'est pas tout à fait faux, dans le sens où page est un peu l'intitulé de cette exposition. Peut-être un sens commun à tous les artistes.
Oui, exactement. J'ai choisi ces titres pour que les publics puissent trouver toute une large palette des significations, en fait, avant de visiter l'exposition. Donc, les artistes que j'ai choisis et qui sont présentés travaillent autour du livre et de la littérature. Donc, évidemment, les thèmes, ça s'est un peu imposé par rapport à la double nature du lieu. Hein. La halle, ces locaux voient coexister la bibliothèque et les centres d'art. Donc, c'est un peu un hommage au lieu, notamment dans l'année des 30 ans. Hein. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi d'analyser les liens entre les livres, l'édition, la littérature et les arts visuels classiques. Et donc, justement, j'ai choisi les titres et pages parce que c'est un seul mot, c'est efficace, page au pluriel. Hein, et ça peut évoquer plein de dimensions, plein des significations, des images mentales, mais aussi des réflexions autour du langage. Donc, c'est un peu comme ça que je voudrais que les visiteurs perçoivent l'exposition. Voilà, une expérience d'impulsions multiples, de stimuli multiples.
C'est la médiathèque finalement qui impulse, avec une certaine passerelle sur le lieu d'art en fait, toute cette dimension du livre.
Quand je suis arrivée, il n'y a pas longtemps, en septembre, effectivement, je trouvais très intéressant la synergie entre les deux parties de la halle. Et puis bon, étant moi-même mon lectrice et appréciant les plaisirs de la lecture, je trouvais ça en fait très naturel, sachant qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent du livre, c'est-à-dire que soit le travail d'une façon, on pourrait dire, plus sculpturale, ou alors qu'à travers la littérature, il prolonge l'expérience de la lecture, du roman, de la fiction, en créant des œuvres plastiques. Donc voilà, c'était vraiment dans avec cette volonté de voir comme les démarches plastiques et les démarches littéraires sont deux mondes qui peuvent très bien fusionner, comme une fusion ici à la halle. Voilà, c'est un peu rhétorique, mais...
Fusionner, se prolonger, il ne s'agit pas forcément de mettre en valeur des livres. En fait, c'est des champs de création, des champs de possibles pour les artistes.
Oui, exactement, parce que je n'avais pas envie de montrer des livres d'artistes. D'ailleurs, parce que je trouve que montrer des livres d'artistes, c'est très compliqué. Leur place, c'est dans les bibliothèques, dans les salles d'exposition. Mais en même temps, je veux dire, en travaillant sur cette exposition, je ne me suis pas... tous ces courants, tous ces mouvements, tous ces artistes qui produisent eux-mêmes des livres, je pense notamment aux premiers dans les années 60, 70, ils étaient là, ces artistes, et même pour les artistes, pour les plus jeunes artistes qui sont exposés ici, ils ont tous en tête ce que c'est un livre d'artiste, ce que c'est pour un artiste travailler sur l'édition. Mais je ne voulais pas que ce soit une exposition sur le livre d'artiste. Donc, les œuvres qui sont présentées sont justement des œuvres où il y a une volonté de synchroniser, en quelque sorte, de mélanger ces deux démarches, ces démarches artistiques au sens large, mais qui pourraient être littérales et plastiques. Donc, vraiment, c'est vraiment dans cet esprit-là. Voilà.
Donc des artistes pour donner chacun une option un peu différente dans la manière d'aborder le livre, la littérature. Après, chacun avec son appréciation, on peut toucher un petit mot des artistes.
Oui. Donc des jeunes artistes et puis un artiste qui, on pourrait dire, un peu historique. Il s'agit d'une œuvre qui a été prêtée par l'Institut d'art contemporain des villes urbaines. Je vais peut-être le présenter dans le sens de visite, même si c'est pas un sens qui est obligé, mais ça se présente comme ça, en tout cas dans les salles d'exposition. On a une œuvre qui joue d'ailleurs avec les mots, dans le sens de son titre et puis dans son aspect, qui est l'œuvre de Julien Nedelec, qui s'intitule « La mort du livre ». Et Julien, en fait, il a découpé dans des feuilles au format A4, donc c'est un format très très standard, et ben il a découpé tous les derniers mots des livres de sa bibliothèque. Donc il y a évidemment un jeu de mots entre la mort du livre, quelque chose de assez dramatique, surtout peut-être si on pense à l'ère du numérique qui s'impose. Et puis en même temps, il y a quand même un côté ironique parce que on voit bien que les mots sont vides. Donc, enfin, je veux dire, l'effet d'avoir découpé dans la page, il y a un côté d'absence, oui, en quelque sorte, un vide qui s'est créé à la place des lettres. Et d'autant plus qu'en plus, la façon dont c'est raccroché, il y aura un petit espace entre les murs et la feuille même. Donc, il y a un petit jeu d'ombre et de surapposition des mots et des découpes, voilà, qui rendra ça encore vraiment visuellement très fort. Donc là, évidemment, les supports de la feuille, de la page est très présent parce que c'est une démarche sculpturale, en fait. Il est sculpteur, Julien, donc c'est vraiment quelque chose qui relève de la dimension, voilà. C'est donc les supports, il est détourné vraiment dans sa forme la plus physique. Après, on a des dessins de Laurence Catala. Là, on peut parler aussi des détournements, parce que c'est une artiste, Laurence, qui, à travers les dessins, elle crée des faux semblants, en fait. Elle joue vraiment entre ce qui pourrait sembler vrai et ce qui, en fait, est la construction de l'artiste. Ce qui est en présence, c'est il y a donc deux séries différentes des dessins qui sont présentés, Mémoire des papiers 1 et Mémoire des papiers 2. Dans Mémoire des papiers 1, en fait, on n'a présent que deux dessins, et c'est une pile des revues, des magazines d'art, prêtes à être rangées, enfin, liées par un fil, prêtes à être rangées dans un grenier, ou presque on dirait oublié. Très, très ordonnée, très, très précise. Et puis au mur, on présentera la série de dessins Mémoire des papiers 2, où à l'inverse, on a comme des maquettes de mise en page d'articles. Donc il y a un jeu qui s'est créé entre ces revues dessinées, pliées, ordonnées, prêtes à être rangées, et puis ce qu'on peut imaginer être leur contenu. Leur contenu qu'on reconnaît très bien, d'ailleurs, on a les traits de découpe, c'est vraiment aux maquettes prêtes à être imprimées, mais les mots sont complètement effacés. Et les images aussi, les photos sont pas forcément très nettes. Donc il y a un côté très très ambivalent entre ce qu'on peut voir, ce qu'on reconnaît, hein, et puis ce qui n'est pas donné à voir, en fait. Pour passer à notre médium, hein, on a Stéphanie Solinas, qui est une artiste photographe notamment, mais pas que, et qui nous propose une installation où on recrée la vie d'un homme qui a réellement existé, mais qui justement, à travers l'élaboration de l'artiste, donc l'élaboration qu'il fait de la vie de ses personnages, et bien il devient vraiment une espèce de personnage autre. Donc il s'agit d'Alphonse Bertillon, qui est un criminologue qui a vécu au XIXe siècle, et c'est ce monsieur qui a créé un système, les premiers systèmes d'identification pour reconnaître les criminels, pour avancer en fait, dans les enquêtes. C'était quelqu'un qui travaillait à la police criminelle, donc c'était vraiment quelque chose de très scientifique, et d'ailleurs un système qui a perduré, qui a été utilisé jusqu'aux années 60-70. Et donc, en partant de ces personnages très réels, avec un lien très particulier avec ce qui pourrait être les portraits et l'identité, elle crée Monsieur Bertillon, donc une espèce de son Bertillon à elle, et puis à nous tous, mais on verra pourquoi, qui est évoqué d'abord par une série de photographies à l'apparence anodine, ou en tout cas énigmatique. On a des photos qui reprennent des rues de Paris ou des objets de... On ne comprend pas trop ce que c'est, et qui sont justement à voir en lien avec des extraits de la biographie d'Alphonse Bertillon. Donc en fait, c'est ces liens entre des extraits choisis par l'artiste comme étant significatifs de parcours personnel, hein, de ces messieurs, et puis des photos prises aujourd'hui dans les lieux révélateurs de la biographie d'Alphonse Bertillon. Donc il y a ces jeux entre l'artiste qui retrouve des traces de ces personnages. À côté de ça, quelque chose qui révèle pas du tout de l'intime, mais qui même c'est plus de la manipulation et de la... de l'exposition totale, parce qu'elle a créé, Stéphanie Solina, son édition, un livre. Donc là, c'est un vrai livre, un objet livre, où les premières pages, en fait, c'est des morceaux de puzzle que la personne en possession du livre invitée a découpé et a récollé. Et tous ces petits morceaux de... À l'apparence, on ne comprend pas trop ce que c'est un peu rose, un peu... Et bien, ça recrée une espèce de masque qui recrée les visages d'Alphonse Bertillon. Mmh. Donc, c'est un visage qui a pu être recréé parce que, pour tester son système, il avait fait une fiche avec ses propres détails, ses propres descriptions de son visage. Et donc, il y a un peu une relation entre, justement, donner à tout le monde, enfin, en tout cas... à toutes les personnes qui sont en possession de ces livres, la possibilité de se réapproprier des visages de cette personne. Enfin, donc ça devient presque, je dirais pas obscène, mais ça devient vraiment quelque chose de hyper exposé. Donc c'est intéressant de voir ces relations entre des photos tirées d'une bibliographie qui en plus un côté intime, vraiment personnel, et puis un livre édité aujourd'hui qui au contraire expose vraiment ces personnages à les possibles manipulations et distorsions aussi de tout le monde. Donc, et en tout ça, il y a une vidéo qui nous montre, hein, un tutoriel, comment faire pour découper et assembler les morceaux de ce visage mosaïque. Donc voilà, c'est plus un jeu avec les supports et l'imagination en ces sens-là. Voilà. Ensuite, on a une œuvre qui a un caractère un peu plus historique de Alain Dompersberg. Historique parce que même si en la regardant, on voit une étagère avec des livres, eh bien en fait, c'est une espèce un mémorial en fait. C'est un monument aux morts d'une bataille qui a eu lieu en 1944 suite au débarquement des Alliés en Normandie. Et en fait, Ruppensberg, il a choisi des livres qu'il a reproduits, recréés, qui étaient publiés, en tout cas qu'on aurait pu trouver en librairie au moment de la bataille, en 1944. Donc c'est sur la dizaine d'années environ qui précède cet événement historique. Donc il reproduit, refaçonne avec les mêmes nombres de pages, même si les pages... sont vite, il y a un lire dedans, mais il refaçonne vraiment ses livres existants et il rajoute des ex-libris dedans où il note les noms de certains soldats combattants morts lors de cet événement-là. Donc il mélange tous parce qu'il y a eu il y avait des Polonais, il y avait des gens des Pays-Bas, il y avait des Allemands, voilà. Donc il n'y a pas de... On dirait qu'ils sont tous ensemble, hein, comme d'ailleurs on peut retrouver dans les cimetières, dans ces villages, dans les Flandres, je crois, à Arnhem. Donc ils sont vraiment tous ensemble, mais on n'a pas de tombeau, là on a vraiment des livres. Donc il y a un peu cette idée, avec un objet du quotidien, de faire vivre cette histoire et aussi partir un peu de la conviction qu'en fait l'histoire est avant tout un récit qu'on crée. Il y a vraiment... l'intention de l'artiste d'éveiller peut-être à les publics sur cet événement-là, mais à travers un objet qui est plaisant à voir. Enfin, on voit des belles couvertures. Donc il y a vraiment cette ambivalence entre les côtés funéraires, mémoriales, et puis l'objet du livre, du roman, hein, parce que c'est pour la plupart, c'est des fictions, qui conservent en lui les noms d'un soldat mort. Voilà. Pour finir, on a une installation du jeune artiste Emma Kozani. On peut dire qu'on reste un peu un thème Seconde Guerre mondiale parce qu'elle elle a retranscrit, elle a vraiment traduit un code Morse, la première partie, les premiers dialogues d'Hiroshima Mort à l'amour de Marguerite Duras. Donc elle a pris un code militaire, bon, on peut oublier, en tout cas un peu ancien aujourd'hui. Et l'a mis en scène, en quelque sorte, dans une vidéo où on voit un bateau flotter sur l'eau et une personne, bah, justement, avec une lampe torche, communiquer avec une autre personne arrive. On voit ces signaux lumineux qui pendant voilà, un quart d'heure, nous interpellent. Et en fait, c'est seulement ensuite qu'on découvre, avec l'explication, qu'il s'agit vraiment de ces dialogues d'ouverture de livres, des Duras, pas le film, les livres, la traduction du livre. Et on a aussi la vraie transcription sur une plaque de plexiglas des mots en code Morse, en fait, des signes de cette première scène. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de transcrire visuellement un ouvrage avec après tous les contextes qui est autour, voilà, tout l'univers littéraire. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'œuvre de la prolongation, de dépassement de la page du livre, dans un mouvement voilà, qui relie la lecture à la vision. Voilà, c'est vraiment pour moi le continuum entre ces deux actions. L'idée, vraiment, c'est de donner envie, d'ailleurs, aux visiteurs de lire, hein, s'ils ne connaissent pas les livres qui sont évoqués. L'idée, c'est de stimuler les visiteurs avec plusieurs entrées, plusieurs pistes de vision, encore une fois, et de lecture. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que l'expo a été pensée. Et...
Oui, un côté un peu pluriel aussi pour aborder un univers qui est extrêmement vaste.
Ah ça oui, fait... bien sûr, là, je n'ai pas la prétention.
C'est vrai que le fait qu'il y ait plusieurs artistes, ça donne différents contours. Donc,
différentes démarches, différentes techniques, parce que, comme bien je disais, il y a un photographe. Il y a un photographe, il y a un sculpteur, voilà, quelqu'un qui utilise plus les dessins, c'est assez varié. Voilà. Il n'y a pas de prétention encyclopédique là-dedans, hein. C'est un tout modeste.
Au cours de l'exposition, il y a toujours un peu des temps spécifiques où on peut observer des éclairages sur des thématiques, là notamment le livre.
Oui, justement, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire une exposition sur les livres d'artistes, mais néanmoins, tous ces courants existent. Donc, j'ai invité une éditrice, Valérie Cudel, de la fondatrice de Capture Édition à Valence, pour justement questionner la problème, pour poser la question du livre d'artiste, comment il a évolué, ce qui c'est. Et là, pour le coup, c'est vraiment une contrepartie presque à l'exposition, c'est-à-dire analyser, en tout cas essayer de discuter de ce qu'est un livre d'artiste et ce qu'est un livre d'artiste aujourd'hui aussi. Mais pas avec un artiste, avec quelqu'un qui travaille avec les artistes.
Bien, merci beaucoup, Giulia Turati. L'exposition, elle, se déroule quand ?
C'est jusqu'au 21 mai. Et justement, le 21 mai, c'est la date aussi de la rencontre avec Valérie Cudel autour du livre d'artiste. Donc, on clôture l'exposition avec cette rencontre et cet échange.
Okay. Bon, visite libre, naturellement, aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Oui.
Il y a aussi un moyen de pouvoir avoir quelques éléments de compréhension pour le visiteur. Il y a des fois des...
Il y aura toujours un petit guide, un petit journal d'exposition qui est disponible pour tous les publics à l'entrée de l'exposition, donc avec des textes un peu plus approfondis qui peuvent aider à visiter l'exposition ou alors qui peuvent prolonger la visite une fois à la maison.
Merci. Au revoir, à bientôt à la Halle.
À bientôt.